France Culture.
En 2025, on reprend les bonnes habitudes et comme tous les mardis, entendez-vous l'écho vous emmène dans les lieux où s'incarne l'économie et aujourd'hui, direction Dunkerque.
Dunkerque, c'est maintenant la vision des ports blessés qui commence. Dunkerque, avec sa magnifique statue de Jean Bar, demeurée debout au centre des ruines comme un symbole, ajoute à la leçon du voyage. Dunkerque, qui, sur ses 4000 immeubles existants en 1939, n'en compte plus aujourd'hui que 500 intacts.
Depuis la Seconde Guerre mondiale qui a laissé la région exsangue, le territoire dunkerquois s'est inventé sa propre trajectoire économique. Son port et son tissu industriel, déjà bien en place et florissant, se développent. L'industrie se fait lourde pour répondre aux besoins de la reconstruction. Face à la désindustrialisation qui a suivi et puis a plongé dans la crise qu'a connue toute la France et à plus forte raison ce territoire, il faut trouver de nouvelles recettes, des tentatives qui se traduisent aujourd'hui par une bifurcation de l'économie dunkerquoise, bassin industriel le plus émetteur de gaz à effet de serre de France, devenu vitrine de l'industrialisation décarbonée. Place donc aux gigafactories, ces immenses projets qui ont pour objectif de produire des batteries à faible coût carbone, aux entreprises spécialisées dans l'hydrogène, aux investissements pour produire de l'acier vert et au nucléaire via la centrale de Gravelines toute proche. Alors de la reconversion à la décarbonation, existe-t-il un modèle de développement économique dunkerquois ? C'est ce que nous allons voir en arpentant les hectares de Vercors, ArcelorMittal ou encore d'aluminium Dunkerque dans cette émission programmée et préparée par Tina Young et réalisée par Françoise Le Floch. Et trois invités sont avec nous aujourd'hui, Sophie Boutillier et Blandine Laperche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toutes deux professeures d'économie et membres du laboratoire de recherche sur l'industrie et l'innovation à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et vous avez coécrit, toutes les deux encore une fois, avec Sonti Kim Le, l'ouvrage « Port industriel en transition, de l'économie circulaire à la décarbonation ». C'est paru chez L'Harmattan en 2024. Et puis, il faut dire, vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ICI Nord. Et le duplex est assuré aujourd'hui par Vincent Cunard. Et je l'en remercie. Également avec nous, mais en studio, Jean-François Vérec, docteur en économie, artiste plasticien et directeur délégué de l'Agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque, l'AGUR. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Aliette et bonjour à tous les auditeurs. Une bonne année à tous.
C'est également une très bonne année 2025. Jean-François Vérec, Dunkerque est une ville qui compte 87 000 habitants environ. C'était en 2022, ce qui en fait la cinquième ville la plus peuplée de la région Hauts-de-France. On le disait dans l'introduction, elle est au cœur de nombreux projets industriels qui consistent à faire soit émerger de nouvelles structures, soit à faire différemment, on va dire, mais avec des structures qui existent déjà. On pourrait dire faire du neuf avec de l'ancien, pour le résumer très grossièrement. Comment expliquer ce dynamisme-là, cette focale-là qui est mise sur Dunkerque précisément ?
Vous avez parlé en introduction d'un... Enfin, vous avez posé la question d'un modèle dunkerquois. Je crois vraiment, précisément, qu'il existe un nouveau modèle de développement local. Qui doit prendre forme. Hein. Il faut que les chercheurs, notamment Blandine, Sophie et d'autres, travaillent sur comment la description et la formalisation de ce modèle, puisqu'on a effectivement un développement un peu alternatif qui est en train de se créer avec... On parle beaucoup de la batterie, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a toute une logique qui va au-delà de l'industrie. C'est-à-dire qu'on attire de l'industrie, mais on pense au bien-être. On parle beaucoup de santé, on parle beaucoup de symbiose, hein, de mise en relation entre les industriels. Hein, donc on parle bien sûr d'économie circulaire, d'écologie industrielle. Mais au-delà, on voit aussi émerger de nouvelles formes de régénérescence de la ressource locale. C'est-à-dire que c'est un nouveau rapport au territoire.
Donc c'est un modèle, mais c'est à la fois un laboratoire. On teste des choses, d'après ce que vous dites, Jean-François Vérec.
Tout à fait. On aura beaucoup de choses à se dire.
On teste et on voit, Sophie Boutillier, Dunkerque, on le disait aussi en introduction, génère environ 21% des émissions de CO2 industriel du territoire national. Cela est dû à la présence de 460 entreprises industrielles. Alors peut-être que là, il faut faire attention, on ne parle pas uniquement de la ville, on va dire du cœur de ville de Dunkerque, mais plutôt d'une agglomération un peu plus vaste. Je crois que c'est un territoire d'environ 300 km carrés. Mais très concrètement, ce qui qualifie Dunkerque, c'est bien d'être avant tout un territoire industriel. Dans quelle mesure est-ce lié à sa configuration géographique ?
Oui, effectivement, Dunkerque, donc, situé à l'extrême nord de la France, sur la mer du Nord, est un territoire industrialo-portuaire pratiquement depuis sa création. Enfin, vous avez dit tout à l'heure qu'on reviendrait plus tard sur la question de l'histoire du territoire. Donc, je ne vais pas développer ce point dès maintenant. Mais il est clair que Dunkerque est un territoire industrialo-portuaire qui s'est donc développé après la Deuxième Guerre mondiale. Mais enfin, si Dunkerque a une identité, comme le disait Jean-François, c'est aussi une identité qui lui est donnée par l'extérieur, dans la mesure où, que ce soit dans les années 60 ou aujourd'hui, le développement industriel de ce territoire est la contrepartie, disons, d'une transformation du système industriel dans son ensemble au niveau national, voire au niveau européen. Et donc, par rapport à ça, je voudrais mettre l'accent sur deux choses qui me semblent importantes. La première, et vous l'avez laissé sous-entendre, c'est la nécessité de diminuer les émissions de CO2, hein, puisque Dunkerque, c'est 21% des émissions de CO2 industrielles au niveau national. Et puis, la deuxième orientation, c'est, suivre l'évolution des nouvelles technologies par rapport à aux nouvelles formes de mobilité, notamment donc la mobilité électrique, d'où justement l'implantation des 2 gigafactories, hein, donc pour la production de batteries électriques. Mais tout ça, c'est bien sûr des transformations qui sont disons propres au territoire, mais qui sont larges. Enfin, je veux pas minimiser bien sûr le poids des autorités publiques locales, qui est vraiment fondamental, mais en même temps il y a une espèce, disons, de conjugaison avec des logiques qui sont extérieures au territoire.
C'est ça, donc des logiques extérieures au territoire. On pourrait presque parler peut-être aussi d'une volonté qui vient au moins du haut, je ne dis pas imposée par le haut, mais en tout cas qui vient du haut. Mais on va voir comment différentes formes de coopération justement peuvent se mettre en place entre les grands plans, on va dire, au niveau national, et puis comment ça se traduit dans le territoire de Dunkerque. Avant cela, Blandine Laperche, il faut quand même se poser la question. Alors certes, Dunkerque a un port, et ce depuis un certain nombre de décennies, voire de siècles. On l'a dit, la région est située tout au nord de la France, dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, il y a encore 22,5% des emplois qui concernent l'industrie, contre 13,3% en France. Est-ce qu'il faut faire un lien direct entre cet héritage industriel sur lequel on va revenir, et qui est incarné évidemment par ArcelorMittal, qui emploie fin 2023 près de 4500 salariés et qui représente le plus grand établissement métallurgique national en France. Est-ce qu'il faut faire ce lien-là entre cette industrie qui préexiste et cette volonté, cet accent, ce focus mis sur la ville de Dunkerque dans ces grands projets qu'on vient d'évoquer ?
Je pense que oui, parce qu'effectivement, le développement territorial et les nouveaux projets de développement ne tombent pas du ciel et s'inscrivent toujours dans une histoire économique, et en particulier dans le cas de Dunkerque, on s'est appuyé sur une trajectoire assez longue, celle qui s'est construite après la Seconde Guerre mondiale avec le développement de l'industrie lourde, et qui a créé un certain nombre d'actifs, hein, qui a permis le développement d'un certain nombre d'actifs qui sont spécifiques justement au territoire. Donc quand on parle d'actifs spécifiques, on parle à la fois de ressources humaines, hein, c'est-à-dire d'une main-d'œuvre qui a été formée au travail industriel pendant plusieurs décennies et qui forme donc des ressources vives pour les industries nouvelles, et également des infrastructures qui se sont développées au fil du temps. alors que ce soit par les industries elles-mêmes ou par les relations interindustrielles qui ont un tout petit peu été évoquées tout à l'heure et dont je pense sur lesquelles nous allons revenir hein, autour de l'écologie industrielle à Dunkerque, puisque Dunkerque est une ville pionnière en France et la ville pionnière en France dans ce qu'on appelle les symbioses industrielles, l'écologie industrielle. Et donc ceci a contribué à développer des infrastructures, que ce soit en termes organisationnels qui vont accompagner les entreprises et qui se sont renforcées au cours du temps, mais aussi des infrastructures routières, de transport, hein, de différents types, de différents modes de transport, et qui donc vont largement bénéficier aux nouvelles entreprises qui vont s'installer. Donc on a à la fois des ressources humaines, des ressources en termes organisationnels, des ressources en termes d'infrastructures qui se sont construites au fil des décennies et sur lesquelles s'appuient les développements nouveaux. Après, on a parlé de bifurcation. Vous avez parlé de bifurcation à juste titre, dans la mesure où depuis la Seconde Guerre mondiale, on était comme ça a aussi été dit, on avait une spécialisation forte à Dunkerque dans l'industrie lourde.
Hein, donc il a bien fallu se réinventer aussi face aux crises qu'on va aborder. Blandine Laperche, oui. Blandine Laperche, je voudrais juste faire une petite parenthèse d'ordre plus théorique, on va dire, ce que vous avez mentionné des notions qui sont très importantes, notamment celle d'écologie industrielle. Oui. Vous parlez aussi dans votre ouvrage du concept de milieu innovateur qui est développé par l'économie du territoire, qui est une discipline spécifique, il faut le dire, qui prend en compte justement tout ce que vous venez d'évoquer, ces enjeux d'écosystème finalement. Dans quelle mesure cette notion-là de milieu innovateur permet de comprendre aussi comment se concrétise l'économie, le développement économique d'un territoire et qu'est-ce que ça nous permet de comprendre en fait ? Est-ce que ça nous permet de faire la part des choses entre cette fameuse logique imposée du haut et ce qui vient justement du bas ? Comment cette économie du territoire prend en compte ces enjeux-là ?
Ça, disons que c'est l'hypothèse que nous avons constituée au sein du laboratoire de recherche sur l'industrie et l'innovation depuis la fin des années 90, où on a essayé de voir comment les caractéristiques de l'industrie à Dunkerque, et en particulier l'industrie lourde d'abord, pouvaient générer dans une optique dans l'économie régionale, François Perroux à l'époque, dans les années 60, on parlait d'effet d'entraînement des industries lourdes vers un tissu économique local, avec de l'emploi, avec de la création d'entreprises, etc. Et nous, on a fait cette hypothèse depuis le début, comment ces industries lourdes à Dunkerque, après la Seconde Guerre mondiale, pouvaient générer justement ce type de milieu innovateur. Un milieu innovateur, bon, c'est le milieu innovateur, le concept même, ça a été développé par un groupe de recherche suisse, le GREMI, et c'est dans l'optique aussi des districts industriels, à l'époque de Marshall, ou encore, maintenant, on parlerait d'écosystème d'innovation, hein, qui est un terme qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui, mais l'idée est un peu la même, c'est-à-dire cela s'appuie sur des relations interindustrielles aussi avec les institutions publiques, et le but c'est de générer de l'innovation sur un plan local, innovation technologique, organisationnelle de différentes formes, y compris sur les modèles économiques. L'hypothèse que nous avons faite, c'est donc d'abord sur l'industrie lourde, puis après sur le projet d'écologie industrielle qui s'est renforcée, qui s'est créée avec le ArcelorMittal, enfin Usinor à l'époque, qui s'est installée à Dunkerque dans les années 60. Et puis ensuite, avec les nouvelles industries qui se sont installées, il y a tout un ensemble de synergies qui se sont créées entre industriels et avec les institutions locales. Et là, on a refait cette hypothèse, enfin on a poursuivi cette hypothèse en disant comment le projet d'écologie industrielle peut justement générer l'innovation. Et les résultats que nous avons eus étaient plutôt positif, mais aussi négatif, ou insuffisant en tout cas. Positif parce qu'on a vu au fil du temps se constituer une gouvernance avec des fortes relations entre acteurs privés, publics, qui ont justement encouragé le développement de nouveaux projets et contribué au développement de ce qu'on appelle la symbiose industrielle, donc toutes les relations interindustrielles. Mais, hein, dans le terme écosystème d'innovation ou milieu innovateur, il y a un mot-clé, c'est celui de l'innovation. Et là, c'est là où les résultats en termes de développement endogène, hein, c'est-à-dire sur le territoire de nouvelles innovations, les résultats ne sont pas au niveau des attentes que l'on pouvait avoir compte tenu de toute l'implication, je veux dire, d'un ensemble d'acteurs pour arriver jusque là. Donc c'est un peu le constat qui n'est pas tout à fait positif, mais que nous avons fait, mais qui a en même temps conduit pour ce qui concerne l'écologie industrielle, à transformer, à moderniser un peu, dépoussiérer l'image de l'industrie lourde, et a sans doute contribué à la bifurcation que l'on connaît aujourd'hui vers de nouvelles industries. Là, pour le coup, on n'est pas dans la continuité des filières existantes précédemment, mais on passe à d'autres secteurs d'activité avec l'industrie des batteries électriques.
Alors justement, sur ces nouvelles filières, et puis sur cette, on va dire, cette adéquation ou non entre volonté nationale et incarnation sur le territoire, en l'occurrence celui de Dunkerque, je voudrais vous faire entendre ce que soulignait Emmanuel Macron le 12 mai 2023. Il s'était alors rendu sur le site d'Aluminium Dunkerque.
Mesdames et messieurs, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et d'être en particulier ici à Dunkerque. Dunkerque, et plus largement ce qu'on fait à Dunkerque, à Douai, jusqu'à d'autres sites du Pas-de-Calais, c'est exactement cette stratégie qu'on décline sur d'autres bassins d'emploi. Et je pourrais vous citer l'Occitanie ou la région lyonnaise ou autre, qui est, on remet le turbo, on réindustrialise, mais on ne fait pas de l'industrie d'hier, pas de nostalgie. On fait une industrie qui est de très grande qualité, très décarbonée, ce qui suppose d'investir plus et d'avoir cette relation de confiance public-privé. À Dunkerque, entre 2000 et 2020, on avait détruit 6000 emplois industriels. On a d'ores et déjà signé, sur la période 2022-2030, la création de 16 000 emplois industriels. Donc ce n'est pas simplement qu'on répare la désindustrialisation subie, c'est que d'ici à la fin de la décennie, on aura plus industrialisé le bassin d'emploi que ce qu'il y avait, au fond, avant le décrochage des années 2000.
Sylvain Pénaud, le cofondateur de Vercors et directeur donc de la future Gigafactory dunkerquoise, parlait dans une interview d'un terrain clé en main pour qualifier Dunkerque et expliquer son choix donc d'implanter sa Gigafactory de batteries pour voitures électriques. Jean-François Vérec, est-ce que c'est cela l'atout majeur de Dunkerque? Tout est déjà en place à la fois en termes de symbiose industrielle, comme on le disait à l'instant, donc presque d'un point de vue plus institutionnel, mais aussi géographique. Il y a tout ce qu'il faut finalement pour s'implanter à Dunkerque quand on a un maxi-projet comme les Gigafactory.
Quand on discute avec Sylvain Pénaud, il nous dit, moi ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé à Dunkerque, c'est que ça faisait écosystème, parce que tous les acteurs étaient alignés. Entre deux réunions, on pouvait ajuster les choses et on voyait que tout le monde s'était mis d'accord entre deux réunions pour que tout soit prêt. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un élément essentiel. Il y avait un autre élément, c'est que c'est ce côté clé en main. Alors ce côté clé en main, il sort pas de nulle part. Comme il était dit tout à l'heure, effectivement, on avait peut-être un problème d'innovation. Effectivement, on a fait le même type de recherche à la Gure. Et quand on rencontrait les industriels et notamment les PME, elles nous disaient, nous, on n'innove pas. Parce qu'on fait ce qu'on nous demande. Il y a des grands donneurs d'ordre et puis on répond au cahier des charges. Mais on s'est rendu compte, en creusant un peu, que dans leur façon de répondre au cahier des charges, il y avait quand même une innovation cachée, mais qu'il fallait faire émerger, et que ce qui empêchait en fait un peu cette innovation locale de se développer, c'était la méconnaissance de ce que faisait le voisin. Voilà. Donc on a créé un outil qui s'appelle l'étoile, on aura l'occasion peut-être d'en discuter après, et qui visait notamment à faire comprendre ce que faisaient les uns et les autres et quelles étaient les relations inter-industrielles. Et grâce à cette étoile, on a pu notamment travailler avec Enedis, qui est un partenaire important, RTE également, avec qui on travaille beaucoup, et qui ont, grâce à cet outil, fait de la prospective et imaginé à l'avance les postes électriques qu'il fallait positionner dans le port et sur le territoire pour accueillir beaucoup plus rapidement les entreprises. Donc on a une stratégie proactive d'anticipation qui nous ont, par exemple, permis d'anticiper les conséquences du Covid, anticiper les conséquences de la guerre en Ukraine, etc., etc. On organise régulièrement des scénarios de crise à la Gure pour faire avancer ce type d'anticipation.
Jean-François Vérec, cette nouvelle configuration que vous évoquez là, très concrètement, elle passe par quoi ? Par une proximité géographique, une proximité en termes de communication, plus institutionnelle. En fait, il s'agissait de quoi ? D'accélérer, on va dire, l'échange d'informations entre tous les acteurs concernés ?
Alors, on parle toujours d'écosystème, mais on ne le voit jamais. Hein, je suppose qu'à chaque fois que vous avez des invités, vous dites « Oui, nous, on a un superbe écosystème ». Je vous mets au défi, la prochaine fois que vous avez des invités, de leur dire « Montrez-moi votre écosystème ».
À quoi ressemble un écosystème ?
Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis artiste plasticien. Moi, si je ne peux pas représenter les choses, je ne peux pas faire. Hein. Donc, si on a un écosystème, on le représente. Et en représentant l'écosystème, on se rend compte de l'étendue des chaînes de valeur, de notre dépendance vis-à-vis des relations internationales, le Kazakhstan, le Niger, etc. D'où vient le lithium, etc. etc., etc. Bon. Donc, première chose, on a représenté les écosystèmes de la façon la plus précise possible. Il y a aussi une thèse, la thèse de Fédois Kasmi, qui a représenté un peu l'écosystème de l'écologie industrielle sur le territoire, selon la même méthode d'étoiles. À partir du moment où vous avez cette représentation, vous faites venir les industriels et vous leur dites, vous avez une problématique, sachez que votre voisin a la même problématique, et puis l'autre voisin a la solution. Alors concrètement, on va aller voir une entreprise, un grand producteur d'aluminium par exemple, on lui dit vous avez un problème d'eau, hein, il vous faut de l'eau et on vous a dit d'économiser votre eau dans votre process. Quelle est votre solution ? Moi, ma solution, c'est de limiter les fuites. Je ne peux pas aller bien au-delà. Et quand on leur montre la toile, on a une toile de l'eau, hein, on leur montre qu'en se mettant en relation avec un ou deux voisins, on peut créer une micro-économie circulaire de l'eau qui va permettre à trois entreprises de diminuer quasiment de moitié leur consommation. Alors ça, c'était des simples préconisations, mais aujourd'hui, quand Vercors arrive, ils se mettent directement en relation avec le voisin.
Grâce à cette cartographie.
Récupérer cette eau, voilà.
Jean-François Vérec, que vous avez prononcé le mot, celui de circularité, et on va voir comment cet écosystème, de fait, et cette circularité se sont mises en place. Mais pour comprendre comment s'est élaboré ce fameux territoire clé en main, on le disait, un territoire clé en main ne se construit pas en un jour, on l'imagine bien. Et d'où vient aussi la volonté ou la nécessité de reconfigurer ce tissu industriel de Dunkerque ? Il faut aussi, bien sûr, comprendre comment ce territoire a évolué au cours des décennies, voire des siècles précédents. On a commencé à aborder cette histoire longue, mais là, Sophie Boutillier, il faut noter une chose importante, parce qu'elle a encore des conséquences aujourd'hui. Depuis le XVIIe siècle, en réalité, l'emplacement de Dunkerque, son ouverture sur la mer et sa proximité avec certains de nos voisins européens du Nord font de Dunkerque un enjeu pour les pouvoirs publics français. On peut le dire, en fait, Sophie Boutillier, l'État prend conscience très très tôt, en fait, du rôle stratégique de Dunkerque.
Oui, effectivement, à partir du moment où Dunkerque devient française, donc sous Louis XIV, hein, cela devient d'emblée donc une plateforme pour défendre l'intégrité du territoire, hein, d'où aussi toutes les fortifications Vauban, hein, qui perdurent, qui existent encore à l'heure actuelle. Et puis donc il y a à la fois un enjeu stratégique en termes de défense, mais aussi un enjeu commercial. Donc par rapport à ça, on va assister à partir donc du XVIIe siècle au développement du commerce international, que ce soit avec le reste de l'Europe ou pour l'importation de produits qui viennent de colonies. Dunkerque a aussi, bon, beaucoup moins que les ports de l'Atlantique, participé aussi au commerce triangulaire. Et donc il y a vraiment dès le XVIIe siècle une impulsion qui est donnée donc au développement économique par l'État, hein, par la personne notamment de Colbert, hein, qui va organiser dans tous les sens du terme le développement économique du territoire. Cette dynamique d'industrialisation, donc largement impulsée par l'État, va se poursuivre au cours du XIXe siècle, notamment à la fin du XIXe siècle avec le plan Fraissinet, Calais, hein, qui permet donc en quelque sorte de désenclaver le territoire sur le plan de, notamment grâce à l'accès du, au fait que le territoire va être desservi par le chemin de fer.
Ça, Sophie Boutillier, il faut peut-être bien préciser que ce fameux plan Freycinet, donc qui est élaboré au niveau national, il ne vise pas forcément spécifiquement à investir, on va dire, sur des entreprises ou des manufactures dunkerquoises. C'est tout un réseau qui est pensé. C'est un investissement essentiellement sur les transports, et ça, ça permet aussi le développement économique.
Tout à fait, tout à fait. Et par exemple, si on prend le cas d'une entreprise française tout à fait emblématique, Le Sieur est créé en 1908, hein, donc par Georges Le Sueur. Et l'une de ses principales, disons, l'une des principales raisons qui ont fait que Georges Le Sueur a choisi cet emplacement, c'est précisément le fait que Dunkerque était un port qui lui permettait donc d'importer de l'arachide de ce qui était à l'époque donc les colonies françaises africaines, pour ensuite exporter le produit transformé vers le reste de l'Europe. Mais ce qui fait la différence entre, on va dire, le capitalisme industriel qui va se développer toujours grâce au soutien de l'État au cours du 19e siècle et en gros jusque la Deuxième Guerre mondiale, c'est que ça reste un capitalisme entrepreneurial avec de grandes figures d'entrepreneurs qui sont surtout des entrepreneurs locaux. Par contre, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ce sera plutôt un capitalisme managérial avec Usinor, qui est sans doute l'une des entreprises, on va dire, emblématiques, hein, de cette transformation. Quand même, le port a été détruit à 100%, hein, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc on va avoir, à partir donc des années fin des années 50, début des années 60, le développement d'un capitalisme managérial qui est le donc ça veut pas dire qu'avant il n'y avait pas d'investissement étranger, hein, bien sûr, mais où là c'est une logique managériale qui va se développer avec de grandes entreprises qui s'implantent sur dans certains de nos travaux, on a parlé de pôles internationaux, hein, c'est-à-dire que une entreprise va s'implanter sur un territoire plutôt que sur un autre en fonction des avantages qu'elle peut en attendre, un petit peu comme le disait Blandine tout à l'heure, du point de vue de la main-d'œuvre, des infrastructures. Et là, si on revient à la situation actuelle, notamment par rapport à l'implantation de Vercors, il y a quand même un
une
point
de continuité
qui, voilà, de continuité. Certes, des usines, un territoire clé en main, ça veut dire aussi que des dépenses d'installation sont prises en charge par la collectivité.
Pour qu'ensuite ça fasse boule de neige et que une forme d'entrepreneuriat reprenne, ce qu'on comprend bien, excusez-moi de vous interrompre, oui. Sophie Boutillier, parce que je rappelle que vous êtes à distance. Donc ce qu'on comprend bien, grâce à ce que vous venez de nous dire, c'est que finalement il y a eu certains investissements faits, notamment en termes de réseaux de transport au niveau national, qui permet le développement de cet entrepreneuriat beaucoup plus local, qui finit par être asphyxié. C'est ce que dit notamment la chercheuse que vous citez dans votre ouvrage, Nathalie Mudard, qui finit par être asphyxiée par cette industrialisation lourde. Vous avez cité le cas de Le Sueur en 1908, mais Jean-François Verret, qu'il n'y a pas que Le Sueur, de fait, il y a aussi quelque chose de très important qui compte beaucoup pour Dunkerque et qu'il faut aussi avoir en tête dès lors que l'on parle de son développement économique. Ce sont les chantiers navals de France qui sont créés à la toute fin de ce 19e siècle, assez florissant pour Dunkerque, et qui resteront ouverts un peu moins d'un siècle, puisque la fermeture a lieu en 1987. On peut le dire, ce sont les chantiers aussi qui participent, c'est vraiment de l'industrie maritime qui participe à la renommée et à la prospérité de Dunkerque pendant très longtemps.
Oui, tout à fait. C'est un véritable savoir-faire pour le territoire qui était extrêmement riche. Alors, il faut imaginer, hein, vous avez les chantiers de France qui donnent vraiment à côté du centre de Dunkerque. Hein. Vous voyez sortir les bateaux des chantiers. Alors aujourd'hui, c'est un musée d'art contemporain. Bon, c'est le FRAC, hein, le Fonds Régional d'Art Contemporain, qui n'est pas un musée. Excusez-moi, mais à mes collègues du FRAC. Mais effectivement, il a fallu faire preuve de beaucoup de résilience à la fin des années 80, quand on a annoncé la fermeture des chantiers de France, parce que là aussi, on a une spécificité à Dunkerque, c'est cette capacité de résilience. On en a connu d'autres. Hein. On a connu la guerre. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'en 1945, on n'était pas sûr de refaire un port à Dunkerque. Hein, et ce sont les Dunkerquois qui sont battus aussi pour qu'il y ait de nouveau un port.
Et aujourd'hui, le port de Dunkerque est le troisième port de marchandises de France, le premier d'importation de minerais et de charbon et d'importation de fruits en conteneur, le premier de fret ferroviaire français, le deuxième port français pour les échanges avec la Grande-Bretagne et j'en passe dans les superlatifs. Jean-François Verret, qui a une forme effectivement de résilience, et puis ce, malgré la fermeture des chantiers, l'économie portuaire et maritime reste fondamentale.
Tout à fait. Et j'en profite pour saluer aussi le caractère visionnaire des directeurs du port. Parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais si aujourd'hui on peut faire du plug and play quasiment pour en s'implantant à Dunkerque, c'est aussi parce que Stéphane Raison, il y a quelques années, a lancé le projet Cap 2020, qui a permis de développer une zone industrielle à un moment où on disait bah, l'industrie c'est fini. Hein, donc il a été à contre-courant, il a été visionnaire et il bénéficiait aussi d'un alignement des planètes puisque Patrice Vergriete venait d'arriver et on avait devant nous une série de politiques et de visionnaires avec qui on pouvait vraiment travailler sérieusement.
On l'a bien compris, le développement économique de Dunkerque, alors certes, est visionnaire, pionnier, mais est finalement assez traditionnel pour les villes du Nord, cette économie tournée vers la mer et puis les manufactures qui en découlent de transformation de matières premières, d'où cet entrepreneuriat local. Entrepreneuriat local qui est donc asphyxié après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il faut tout reconstruire. Et donc, l'industrie lourde commence à se développer. Sophie Boutillier, cet entrepreneuriat-là, en fait, je trouve ça assez intéressant que les racines même de ce qu'on retrouve aujourd'hui en termes de tissu économique et entrepreneurial prennent leur source, on va dire, dans cette après-Seconde Guerre mondiale. Vous avez mené des recherches sur la composition de l'entrepreneuriat local à Dunkerque dans les années 90, puis 2000, et puis ensuite dans les années 2020. Dans les années 90 et 2000, très concrètement, quel est le portrait type d'un entrepreneur dunkerquois ?
Oui, justement, il y a une espèce de, on va dire, de clivage entre ce qu'on vient de décrire, hein, le site industriel qui prospère, qui repose très largement sur l'industrie lourde. Hein. Il faut savoir aussi que à Dunkerque, quand je dis Dunkerque, c'est l'agglomération urbaine, hein, donc c'est en termes de nombre d'habitants, c'est un peu plus que ce que vous avez dit tout à l'heure, donc c'est à peu près 192 000 habitants.
Oui, les 92 000, c'est vraiment pour la ville. La ville en tant que telle.
Oui, voilà, oui. Exactement. Donc on a ce site, enfin ce pôle industriel, hein, qui repose très largement sur la sidérurgie, le nucléaire, etc. Et puis de l'autre côté, on va avoir ce qu'on pourrait appeler, un entrepreneuriat de proximité. Puis comme je le disais tout à l'heure, ici à Dunkerque, on a à peu près presque 93% de l'emploi qui est un emploi salarié, alors que la moyenne nationale est largement en dessous,
oui, autour 87, de 80, oui.
Voilà, 87%. Et donc, dans la mesure où le développement économique de ce site est, comme l'ont dit aussi Blandine et Jean-François, est largement impulsé par le soutien des autorités publiques locales et nationales, et bien de l'autre côté, on va avoir un entrepreneuriat qui est plutôt un entrepreneuriat de la débrouille, du petit commerce, du commerce de proximité, puisque comme il a été fait référence tout à l'heure, dans les années 80, c'est vraiment la crise, avec donc la crise de la sidérurgie, puis la fermeture des chantiers navals. Et donc, par rapport à ça, il y a deux orientations qui seront développées au niveau du territoire. Donc, d'un côté, poursuivre l'orientation industrie lourde et améliorer l'attractivité du territoire avec, comme l'a dit Blandine, le développement de l'écologie industrielle. Et puis, de l'autre côté, on va aussi chercher à expliquer aux personnes qui ne trouvent pas d'emploi que la création d'entreprises, ça peut être une bonne solution. Enfin, ceci, je dis pas ça de façon péjorative, mais bon, quand vous créez votre entreprise, vous engagez votre capital, hein, donc vous prenez un risque qui n'est pas le même risque que si vous êtes salarié. Donc, on va avoir la création d'un grand nombre d'associations qui sont largement soutenues par par les collectivités publiques locales pour accompagner les, on va dire, les candidats à la création d'entreprises. Hein. Et par rapport à ça, justement, c'est non pas que ce soit une économie, on va dire, déconnectée du reste, hein, puisque c'est aussi une économie qui sert à, bah, c'est le commerce de proximité, vêtements, comment, cosmétiques, enfin, les kebabs, enfin, tout ce qu'on trouve un petit peu, un petit peu partout, mais qui n'a rien à voir, qui est complètement déconnecté du site industriel, disons, particulier. Performant qui est le site sidérurgique. Et il y a peut-être une question que Blandine a commencé à aborder, qui est celle de l'innovation.
C'est ce que j'allais vous dire, Sophie, voilà. Boutillier, il y a quand même une forme de paradoxe dans ce que vous nous expliquez là, c'est qu'on a à la fois une industrie très performante qui a été implémentée là après la Seconde Guerre mondiale. On pourrait se dire que c'est autant de demandes finalement aussi pour créer des formes d'innovation, des demandes vis-à-vis de la recherche aussi. L'Université Littorale a été créée en 1990, on pourrait se dire que tout ça, effectivement, participe d'une forme de dynamisme, et pourtant ce n'est pas le cas. Comment on l'explique ?
Non, c'est pas du tout le cas. Bah, justement parce que ces grandes entreprises n'ont pas de centre de décision. Leurs centres de décision sont dans un autre pays européen, voire extra-européen. Et par exemple, on a l'année dernière et en 2023, on a mené des entretiens auprès des plus grosses entreprises industrielles dunkerquoises pour connaître quelle était leur stratégie en matière de décarbonation. Et l'une des principales raisons, quand on leur demandait pourquoi vous vous décarbonez, c'est la directive du siège qui nous oblige, entre guillemets, enfin, j'appuie un petit peu, à développer cette stratégie. Bon, bien sûr, qui est relayée par les instances locales, hein, qui elles aussi ont développé des programmes pour soutenir la décarbonation. Mais on a donc un tissu industriel qui est complètement déconnecté du territoire. Et si on en revient à la question justement de la création de l'université du littoral, donc au début des années 90, l'objectif principal de la création de cette université, qui à mon avis a un rôle important au niveau du territoire, c'était plutôt de chercher à former des jeunes vers les études supérieures, et surtout les jeunes issus des milieux populaires et défavorisés, qui n'avaient pas l'opportunité de poursuivre des études supérieures, parce que poursuivre des études supérieures, c'était forcément au minimum aller à Lille, et ça bien sûr quand on est issu d'un milieu populaire, c'était donc une dépense, on va dire, inaccessible.
On comprend en tout cas, grâce à vous, Sophie Boutillier, qu'il y a eu deux orientations. Vous l'avez dit, l'industrie lourde ou une entreprise soutenue aussi par une forme d'association. En tout cas, ce qui caractérise Dunkerque dans l'après-Seconde Guerre mondiale, nous l'avons dit, c'est l'industrie lourde.
À Dunkerque, le lancement de la Saône, pétrolier de 15 200 tonnes, est une vraie victoire. Et le ministre des Travaux publics, M. Christian Pinault, a voulu être au milieu de tous les constructeurs pour fêter cette journée. Car si la Saône est un succès des ateliers et chantiers de France et de la construction navale française, ce gros bâtiment, l'un des plus importants de notre flotte pétrolière, qui servira à améliorer le ravitaillement en carburant, est aussi un exemple de la ténacité dunkerquoise. Mise en chantier en 1939, le ralentissement voulu de sa construction l'empêcha d'être utilisé par l'occupant. Son achèvement aujourd'hui reclasse Dunkerque au premier rang des chantiers français.
Blandine Laperche, on a parlé d'Usinor, évidemment, qui s'implante en 1948, l'ancêtre, évidemment, d'ArcelorMittal. D'autres entreprises suivront, Creusot-Loire, Total, Lafarge, qui investissent le territoire. Alors là, cet archive de février 1948 nous parle d'une ténacité dunkerquoise. On a bien compris qu'il y avait aussi une forme de volonté de l'État. Ce que vous dites, vous, Blandine Laperche, dans votre ouvrage, c'est que Dunkerque a été le premier territoire à expérimenter l'écologie industrielle dans les années 60 avec Usinor. Alors, il faut nous expliquer ce que ce concept implique et puis en quoi le Dunkerque des années 60 en est l'illustration.
Très bien, donc l'écologie industrielle, c'est en quelque sorte le fait de réutiliser les déchets, ou aujourd'hui on parlerait de coproduits d'un processus de production vers un autre, et à ce moment-là, pour l'autre entreprise, le déchet devient une matière première. Donc on réutilise les déchets ou les coproduits d'une industrie pour un autre usage. Et donc, dès effectivement la mise en service de ArcelorMittal, on a eu des premières boucles d'écologie industrielle qui se sont créées, donc pour de la production d'énergie, et aussi, surtout, dans les années 80, c'est là où ça a pris le plus d'ampleur, avec le réseau de chaleur urbain qui a été créé à Dunkerque.
Et à l'époque, Blandine Laperche, investir dans cette circularité-là, permettre effectivement ces transferts d'énergie, au beau milieu des années 60, c'est pionnier en France. Dunkerque est vraiment la première à faire ça.
Dunkerque est pionnière en France, et surtout elle est pionnière par le fait d'avoir essayé on peut-être trouver d'autres boucles similaires à d'autres endroits, mais surtout ce qui s'est passé à Dunkerque, c'est qu'il y a eu une volonté d'abord des industriels, pour réduire leurs coûts, d'essayer de trouver des relations entre elles qui leur permettaient justement d'accéder à de l'énergie moins coûteuse ou à des ressources de manière moins coûteuse. Et puis il y a eu la création d'une association qui s'appelle Ecopal dans les années 80 et qui ensuite qui était chargé justement d'étudier quelles possibilités de relations entre entreprises pouvaient émerger du vaste tissu industriel qui existait par l'implantation des premières entreprises que vous avez citées et le réseau de sous-traitants aussi qui s'était constitué. Et petit à petit, les collectivités ont aussi compris l'intérêt que cela pouvait avoir et ont contribué au financement de cette association et comme l'a expliqué ensuite Jean-François aussi, on cherchait à développer de nouvelles synergies. De fait, on a eu une symbiose industrielle qui s'est construite. Alors un autre exemple européen, c'est Kalundborg au Danemark.
Alors c'est exactement ce que j'allais vous demander, Blandine Laperche, est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe? On connaît effectivement cet exemple assez emblématique de Kalundborg au Danemark sur cette circularité-là. Or, Kalundborg, comme Dunkerque, sont des ports, et on pourrait se dire que les ports sont particulièrement soumis, on va dire, à des impératifs liés au fait que voilà, ce sont des endroits où des matières premières très polluantes circulent, les navires eux-mêmes sont polluants, il y a la gestion des stocks d'énergie, et puis des énergies fossiles aussi, qui prend une grande place. Or, ce sont souvent dans des ports qu'on retrouve ces mises en place de circularité, d'économie circulaire. Comment expliquer ce paradoxe apparent?
Justement, c'est souvent la contrainte qui pousse à l'innovation. C'est effectivement, on peut mettre en avant des raisons qui justifient le fait que les ports soient des espaces privilégiés pour le développement de ce type de projet d'écologie industrielle. D'une part, la pollution qui existe, vous l'avez mentionné. D'autre part, le fait qu'il y ait dans les ports industriels, en tout cas, une fabrique industrielle, c'est-à-dire un tissu d'entreprises diversifiées avec de grandes entreprises, des réseaux de sous-traitants qui sont déjà en interrelation. Donc, comme il s'agit de relier les entreprises non plus par leur offre commerciale, mais par leurs déchets ou coproduits, eh bien, si on a déjà des relations préexistantes, ça peut faciliter les choses. Et puis ensuite, il y a aussi la compétition internationale des ports qui fait que si on développe des ressources moins chères à la disposition des entreprises, etc. On va réussir peut-être aussi à capter de nouveaux trafics, installer de nouvelles entreprises. Donc, c'est un atout dans la diversification. Et donc, ces éléments-là...
Finalement, les ports sont des endroits plutôt idéaux, en fait. C'est le paradoxe.
Idéaux, en tout cas, ils rassemblent un certain nombre de caractéristiques qui sont des éléments de définition de l'écologie industrielle. Aussi un autre élément, c'est l'existence de flux, de multiples flux de matières, d'énergie. Et c'est sur cette base-là que se nouent ces relations, ces synergies industrielles dont on a parlé.
Jean-François Vérec, il y a un autre paradoxe que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est qu'on l'a dit, les années 70, fin des années 70, début 80, c'est le début de la crise, d'une forte désindustrialisation. Les choses vont relativement mal pour Dunkerque. Et pourtant, c'est la période aussi où cette circularité-là est mise en place. En 1985, il y a la création de ce fameux réseau de chauffage urbain. Il y a des multiples initiatives qui se prolongent tout au long des années 80, 90, 2000. La centrale de Gravelines est mise en place en 1974 dans un objectif industriel. Comment expliquer qu'on fasse tous ces investissements, qu'on y croit encore alors même que la désindustrialisation a déjà frappé?
Dans ces années-là, il fallait frapper fort pour rebondir après la fermeture des chantiers de France. Donc on a inventé aussi des systèmes fiscaux qui étaient attractifs pour permettre à des entreprises multinationales de venir s'implanter sur le territoire. Et on voit justement que le modèle économique local s'est un peu transformé, puisque tout à l'heure on parlait d'Usinor, c'était quand même la grande entreprise
mastodonte
nationale. Hein. Bon, après ça devient petit à petit Mittal, ArcelorMittal, donc on voit une transformation. Et les nouvelles entreprises qui arrivent sont aussi des entreprises internationales qui sont autant de greffes qui viennent sur un territoire.
Là, on est vraiment dans une logique exogène. C'est ce qu'on a expliqué au début de l'émission.
Voilà, c'est une logique exogène, alors que maintenant on essaie de vraiment rendre lisible auprès des acteurs locaux et aussi de la population. Donc on a fait le choix, dans notre modèle d'approche dunkerquois, d'aborder le territoire comme si c'était un corps humain. Donc vous imaginez le corps humain avec un système digestif, un système sanguin, un système respiratoire, etc. Tous ces systèmes doivent être en interrelation et il faut qu'on les comprenne bien.
Bon. Jean-François Vérec, dans quelle mesure ce système-là, cette toile industrielle que vous évoquiez, cette façon de penser le territoire comme un corps humain, est compatible, on va dire, avec d'autres configurations géographiques? Est-ce qu'on pourrait pas se dire que Dunkerque est un cas à part parce qu'il y a ce port, il y a la proximité avec l'Europe du Nord, il y a cette vallée de la batterie qui est en train de se construire, mais est-ce qu'on pourrait le répliquer au beau milieu de la France?
Oui. Mais je vais y revenir, je vais finir ma démonstration sur la question du corps et de la greffe. Parce que quand une entreprise vient s'implanter sur le territoire, c'est comme une greffe, c'est-à-dire qu'elle vient avec son propre écosystème se greffer dans votre écosystème. Et donc, par exemple, une entreprise comme Vercors ou Prologium, les entreprises qui fabriquent de la batterie, etc., viennent avec leurs objectifs, leur mode de développement, etc., mais aussi leurs contraintes. Et leurs contraintes deviennent les vôtres. Hein. Et donc ça, aujourd'hui, on en a bien conscience. Là, on ne fait que parler d'industrie, mais il faut bien se dire que, pour nous, le développement industriel n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est le bien-être des habitants. Donc ça, j'aimerais qu'on y revienne après, qu'on parle des habitants, qu'on parle des femmes aussi, la place des femmes dans tout ça. Donc il faudra qu'on ait un petit peu de temps pour en parler. Et puis alors sur la réplicabilité vis-à-vis d'autres territoires, il faut surtout pas qu'on se dise que ces modèles d'économie symbiotique, etc., sont vraiment pour réservés aux territoires portuaires. C'est pas le cas, puisque aujourd'hui on accompagne d'ores et déjà des territoires qui veulent se lancer dans ces approches écosystémiques, comme Maubeuge, Pau, etc. Alors je parle pas de la ville, ce sont à chaque fois des agglomérations beaucoup plus larges, des bassins d'emploi. On suit actuellement une quinzaine de sites en France et on a beaucoup de demandes à l'étranger également pour mettre en place un petit peu ce modèle dunkerquois.
Third de Chilly Gonzalez, un morceau qu'il a composé pour le film Cette musique ne joue pour personne, un film justement tourné à Dunkerque. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture, entendez-vous l'écho et donc bien à Dunkerque, territoire qui tente de bifurquer pour concilier enjeux écologiques et industriels. Une émission mise en onde par Dalia et nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Vérec, Sophie Boutillier et Blandine Laperche. Alors comment organiser les nouvelles trajectoires économiques de Dunkerque? Quelle industrie penser ou repenser et avec qui? La construction de la Gigafactory qui a débuté à la fin de l'année 2023 annonce la couleur.
Sylvain Pénaud, cofondateur de Vercor.
Vercor a l'ambition d'apporter une solution de fabrication de cellules et de modules pour ses batteries, pour le véhicule électrique, avec une première usine à Dunkerque. Donc giga, effectivement, il y a une notion de giga, puisqu'on parle de gigawattheure dans ce domaine. La première usine de Vercor va permettre de faire 16 gigawattheures, ce qui correspond à peu près à 300 000 véhicules par an. Et aussi giga par les dimensions, donc c'est une des raisons pour lesquelles, et c'est pas la seule, nous sommes installés à Dunkerque, parce que les bâtiments font... il faut de la place.
Luciano Biondo, directeur de Renault Group Electricity.
C'est important pour pouvoir construire l'écosystème de la voiture électrique. Donc je rappelle qu'on a deux usines à Maubeuge et Douai qui vont monter en puissance et qui vont produire plus de 500 000 voitures par an électriques. Il nous faut aujourd'hui d'abord, avec notre partenaire Ucène Vision, préparer l'avenir proche et avec Vercor, l'avenir encore un peu plus lointain de la voiture électrique et d'autres voitures électriques de la marque Renault qui seront fabriquées en France.
Patrice Vergrit, maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque.
On voit avec ce grand projet que ça y est, les industries d'avenir sont en train de prendre le pas sur la perte des emplois des industries du XXe siècle. Donc on voit bien qu'on est à un tournant historique où Dunkerque va être plutôt en reconquête industrielle.
Blandine Laperche, nous nous étions quittés avant cette petite pause musicale sur l'idée de cette convergence, on va dire, des objectifs et puis cette toile industrielle aussi telle que l'a développée Jean-François Vérec. On s'était quitté aussi sur un Dunkerque plutôt en crise après la désindustrialisation. En 2013, Dunkerque était, selon son maire, l'agglomération de France qui perdait le plus d'habitants. Le chômage y reste important, 8,7% au premier semestre 2024. Dans quelle mesure les promesses de Vercor et consorts, puisqu'il y a un deuxième projet, Vercor n'est pas l'arbre qui cache la forêt, il y a aussi un projet taïwanais. Dans quelle mesure peut-on croire aux promesses, et notamment en termes d'emploi ?
Effectivement, il y a plus de 20 000 emplois qui sont prévus à l'horizon 2030. Il y a aussi qui comprennent effectivement les gigafactories, mais aussi il y a aussi les deux EPR de Gravelines, donc les réacteurs nucléaires de nouvelle génération. Alors il faut aussi considérer que tous ces emplois-là, c'est aussi des emplois qui vont être dédiés à la construction des usines, donc et qui en particulier, on a parlé tout à l'heure d'une main d'œuvre disponible. Vous avez évoqué un chômage qui est encore plus élevé si on prend en compte l'agglomération dunkerquoise, hein, qui dépasse largement les plus de 15% de chômage. Et donc, de fait, on a certes une main-d'œuvre disponible, mais les compétences restent quand même encore à construire. Hein, et ça, c'est des compétences nouvelles, puisque ce sont des industries nouvelles ou très spécialisées, comme le cas du nucléaire. Et donc, de ce fait, les compétences, même si on a une habitude du travail industriel, on n'a pas forcément les compétences pour ces industries-là. Alors actuellement, il y a une espèce de l'ensemble des institutions essaie de répondre aux besoins des industriels.
Oui, je crois que la CCI Littoral, oui, c'est ça. Il y a un centre de formation au métier du PTP qui va être créé pour Gravelines. Vercor a annoncé qu'il allait avoir une création d'une école de la batterie pour former 1600 personnes, mais tout cela, ça sera du temps.
Pas forcément à Dunkerque non plus. Oui, et voilà. Puis, et qui demande effectivement beaucoup de temps. Donc, il y a vraiment tous les acteurs locaux se mettent, s'ouvrent aux besoins des entreprises et essaient de satisfaire tous leurs besoins. On a dit un territoire qui apporte tout ce qui est nécessaire aux industries, y compris le besoin de compétences. Et là, par exemple, l'Université du Littoral développe un nouveau projet pour former à la décarbonation. Ça s'appelle C'est décidé. L'idée, c'est de construire des formations donc courte pour répondre aux besoins des industriels. Mais malgré tout ça, rien ne dit que toutes les compétences pourront être là à temps et suffisantes pour répondre aux besoins des industriels.
Elle est intéressante, cette question de la temporalité. Et Sophie Boutillé, on voit que ça se traduit alors non seulement dans le cadre de la formation de la main-d'œuvre, mais aussi plus généralement pour tout l'ensemble des projets. Alors on parle beaucoup de Prologium, donc la gigafactory taïwanaise, et puis de Vercor. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tout est allé très vite pour elle, et notamment dans le cas de Prologium, il s'agissait d'un terrain Choose France, donc qui a bénéficié d'une bonne levée, on va dire, de 2 milliards d'euros. Et puis, à côté de ça, on a des projets beaucoup plus anciens, donc ArcelorMittal, qui a décidé très récemment, le 24, tout début novembre, de retarder son projet d'acier décarboné. Et Eramet a annoncé la suspension de son projet d'une usine de recyclage de batteries électriques au lithium, parce que, justement, Eramet l'a dit, tout va trop lentement, on n'est pas encore sûr des retombées, on ne sait pas si on sait faire, on ne sait pas s'il y a vraiment une vallée de la batterie qui va se construire, donc on n'y va pas. Il y a quand même un énorme décalage à ce niveau-là, Sophie Boutier.
Oui, c'est vrai, on est dans un contexte d'incertitude très, très fort qui ne se réduit pas, bien sûr, aux frontières du territoire dunkerquois, mais qui est beaucoup plus général. Hein. Vous avez abordé la question donc d'ArcelorMittal, hein, qui a annoncé qu'il retardait son projet de décarbonation, alors que justement, dans le cadre des enquêtes que nous avons menées en 2023 auprès des grandes entreprises industrielles dunkerquoises, dont ArcelorMittal, il nous a été dit que si Arcelor ne se décarbone pas, c'est disons la pérennité de l'entreprise, l'entreprise risque de fermer. Bon, comme ça a été déjà cette menace a souvent été brandie depuis le début du 21e siècle. Et donc là aussi il y a une question de temporalité, parce que nous aussi on s'est pas limité à interroger les entreprises ou les responsables des collectivités publiques locales, mais également les représentants des organisations syndicales, et en particulier ArcelorMittal, qui sont favorables à la décarbonation, qui en mettant l'accent sur ce que l'on appelle aujourd'hui la transition juste, et qui souligne le fait que justement ils s'interrogeaient, il y a eu des manifestations au cours du mois de septembre sur le fait que le ArcelorMittal n'investissait pas comme il l'avait annoncé pour décarboner ses installations, au regard justement de la crise de la sidérurgie qui n'est pas simplement européenne mais aussi mondiale, puisqu'aujourd'hui on est dans une offre excédentaire en matière de produits de produits sidérurgiques. Donc et puis vous avez, bon, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais pour en revenir aux gigafactories, par exemple Prologium, le site devait être construit, la construction devait commencer en 2024. Maintenant, on nous dit que c'est en 2025. Il y avait aussi des projets importants pour la production d'hydrogène décarboné, et là aussi avec l'entreprise H2V, et là aussi le projet est sans cesse retardé. Donc, il faut dire, quand on est confronté à ce genre de transformation aussi importante, aussi dans un contexte d'incertitude très très fort, et même si l'État accompagne les acteurs publics, les acteurs privés, il y a un ensemble d'éléments qui jouent énormément.
Jean-François Véric, vous souhaitiez réagir, et puis j'aimerais aussi avoir votre opinion, votre analyse du fait que la production de batteries n'est pas non plus sans danger. Ce sont des sites classés Céveso, parce que vous avez insisté pour qu'on parle des hommes et de la façon dont le territoire s'organisait autour de cela. Il y a eu un incendie très récemment aussi chez ArcelorMittal. Comment on conjugue, est-ce qu'il n'y a pas des conflits finalement d'usage entre la dangerosité de ces sites-là et puis la vie sur ce territoire? Et vous avez une minute pour me répondre.
Oh là là. Bon, ça va être compliqué. Bon, déjà, pour réagir sur la question de l'incertitude, c'est vrai que c'est extrêmement important de... vous savez qu'en économie, l'incertitude, c'est vraiment l'ennemi. Et aujourd'hui, on a un climat d'incertitude important. Je pense aussi à l'hydrogène, hein, puisqu'on a aussi beaucoup de promesses qui étaient annoncées sur le développement de l'hydrogène à Dunkerque. On a parlé d'H2V59. On y croit beaucoup. Là aussi, on représente bien ces écosystèmes pour réduire le niveau d'incertitude. incertitudes. Et donc, on a mis en place, dans le modèle justement dunkerquois, un système de prospective qui permet de voir les différents scénarios. En gros, si ArcelorMittal se lance, qu'est-ce qui va, quelles sont les entreprises qui vont se lancer dans l'hydrogène,
en tout cas, c'est anticipé, c'est
modélisé, etc., etc. Voilà. Donc, on essaie vraiment de réduire l'incertitude. De l'incertitude au risque, il n'y a qu'un pas. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire que effectivement, ce sont des entreprises Seveso. Il y a aussi un très fort suivi des associations, hein, grâce au S3PI et aux différents organismes, organisations de la concertation. Hein, et bon, voilà, j'aurais pas le temps d'aller beaucoup plus loin autour de ça. Façon, on n'a pas parlé des femmes.
Et
pas bien.
On refera une émission sur ce sujet plus précisément. Merci beaucoup à tous les trois, Sophie Boutillier, Jean-François Vérec et Blandine Leperche, d'avoir participé à cette émission.